Nous sommes engagés publics.
Bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, aux Engagés publics, on reçoit Pascal Saint-Onge. Bonjour, Pascal.
Allô, Denis.
On reçoit Pascal Saint-Onge, l'honorable Pascal Saint-Onge, député de Brome-Missisquoi, mais honorable parce que ministre du patrimoine canadien. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir accepté notre invitation.
Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être là puis d'avoir l'occasion de jaser ensemble.
Et on a convenu qu'on allait se tutoyer avant. Depuis un bout, je le mentionne parce que des fois, tu sais, justement, on parle de l'honorable, Pascal. Je me sentais pas d'emblée, tu sais, affranchi de pouvoir te tutoyer, mais on en a convenu puis c'est très apprécié. Merci beaucoup.
De toute façon, on s'habitue pas au titre honorable.
Et Pascal, cette semaine, on a c'est une occasion pour nous, c'est un épisode spécial. D'habitude, on prend le temps de mieux connaître nos élus. On aura peut-être l'occasion de le faire éventuellement quand tu pourras passer à Charlebourg, dans mon sous-sol, où je reçois tous les députés, les élus, les ministres comme ça. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais cette semaine, on va se concentrer là, sur les grands dossiers. On a des beaucoup de choses qui sont intéressantes qu'on peut discuter. Mais quand même, avant, prendre le temps de dire que t'as fait des études littéraire, tu as fait des études en journalisme, tu es une ancienne de la presse, tu travaillais au compte publicitaire que je pouvais lire, que tu as une ancienne syndicaliste et aussi l'ancienne bassiste du groupe Matt June. Moi, je connaissais pas ça. Je suis allé en écouter ce matin. Je suis obligé de dire que c'est très bon. Ça existe encore?
Ah ben merci. Non, le band n'existe plus malheureusement. Ah. Je dirais que quand j'ai commencé à être plus impliquée à la fédération comme syndicaliste, c'était une job assez prenante et la vie de tournée se mêlait plus ou moins bien avec cette vie intense-là. À un moment donné, j'ai fait un choix, puis c'est ça qui a mis un terme un peu à la vie de notre groupe, mais on a eu à peu près 10 belles années là, à faire beaucoup de shows, des festivals, puis ça m'a permis de voir aussi c'est quoi la vie, la vie de musicien, la réalité des artistes sur le terrain, c'est pas facile, même si c'est le fun, là, parce que souvent on fait ça par passion, mais c'est vraiment des métiers qui sont très difficiles. C'est pas accessible à tout le monde.
En tout cas, j'invite les gens à aller faire une petite recherche sur YouTube. Moi, j'ai été agréablement surpris. La musique est très bonne. J'ai même un refrain là, qui me trotte dans la tête depuis ce matin. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on, comme je te disais, on va parler des grands dossiers. Ça tourne toujours autour de la culture des médias, hein, évidemment, parce que c'est les grands dossiers actuellement. Je sais que ça touche pas, justement là-dessus. C'est pas juste tes grands dossiers tournent pas tout autour de ça, mais moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, puis c'est ce qui nous intéresse aux engagés publics. Puis, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse sous forme de mise à jour, parce que là, on entend tellement de choses, on lit tellement de choses qu'à un moment donné, on a besoin de refaire un peu de ménage pour bien comprendre où on en est comme nation, comme pays, comme fédération. Puis là, tu sais, je mêle là-dedans la Nation du Québec et la Fédération canadienne. Sur, par exemple, les mesures là, pour aider les médias, j'ai vu qu'il y avait un 58 millions qui avait été annoncé. Mais est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a des mesures précises là, qui ont été envisagées et qui peuvent nous être communiquées?
Oui, bien, tu sais, je dirais que il y a deux choses. D'un côté, il y a les mesures d'aide qui ont été mises en place depuis quelques années pour aider les médias à faire face à la crise qu'ils traversent présentement, parce qu'on estime, comme gouvernement, puis je pense comme société aussi, que ça serait assez dommageable, merci, si tous nos médias se mettaient à fermer du jour au lendemain puis qu'on n'avait plus de journalistes qui consacrent leur vie là, à faire ce travail-là. Donc, il y a des mesures d'aide en termes, entre autres, de mesures fiscales. Donc, ça touche surtout les médias de la presse écrite. Il y a des crédits d'impôt sur la masse salariale des salles de nouvelles. Ça, c'est une chose que le Canada a mis en place, mais que le Québec aussi a mis en place. Et ce qu'on a annoncé la semaine dernière, le 58,8 millions sur 3 ans, ça, c'est le renouvellement d'une initiative pour soutenir le journalisme local. Donc, c'est plus pour les médias communautaires qui n'ont pas nécessairement toujours des journalistes à leur embauche, mais malgré tout, qui font un travail important dans les régions, dans les communautés, dans les, par exemple, aussi les milieux de langues officielles en situation minoritaire, milieux plus culturels, ethniques, etc. Donc, ça, c'est des mesures économiques qu'on a mis en place pour aider, mais ça, moi, en tout cas, je militais pour ça quand j'étais syndicaliste à la Fédération nationale des communications, puis on a toujours vu ça comme étant un peu des mesures intermédiaires pour soutenir les médias okay. de temps. Qu'on redéfinisse c'est quoi le modèle d'affaires, qu'on redéfinisse c'est quoi l'avenir pour les médias d'information dans un contexte où tout a changé avec la concurrence des géants du numérique, là, notamment sur les revenus publicitaires. Et une des choses que le gouvernement a fait dernièrement pour trouver une vitalité pour le secteur médiatique à plus long terme, ben c'est la loi sur les nouvelles en ligne. Parce que ça force une redistribution un peu de l'argent qui vient des recettes publicitaires entre les plus grandes plateformes et les médias.
C'est ce qui a amené à une entente avec Google, entre autres, hein, c'est ça?
Exactement. Puis cette entente-là est survenue au mois de décembre dernier et Google, présentement, est dans le processus de négocier avec les médias canadiens. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va être 100 millions de revenus additionnels qui vont se retrouver entre les mains des médias canadiens.
On aura l'occasion aussi de rediscuter de Meta à travers tout ça parce que je pense que la situation est très différente de ce côté-là. Déjà, je suis content d'entendre que la mesure est dirigée vers les petits médias. Je pense qu'il y a un besoin criant de ce côté-là. Puis c'est intéressant de voir que c'est ce qui est considéré. Une des questions que j'avais, puis c'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec Mathieu Lacombe, dans une autre entrevue d'ailleurs, chers auditeurs, que vous pouvez aller écouter sur nos plateformes. Puis on se demandait, et puis ça n'avait pas l'air clair pour Mathieu quand j'en parlais avec lui, à savoir comment les négociations... Bon, là, je sais qu'il y a un 100 millions qui a été promis par Google. La première des choses, on se demandait, est-ce que c'est un montant supplémentaire ou c'est une entente qui se soustrait en réalité à une entente déjà existante, le 100 millions avec Google? Parce que je sais qu'il y avait déjà des ententes avec Google.
Ouais, ben en fait, ce qui va arriver, c'est que les ententes qui existent vont se poursuivre jusqu'à la fin de ces ententes-là qui étaient déjà déterminées, et ça va éventuellement être remplacé là, par l'autre entente
okay, ça
de 100 millions de dollars. Oui, mais par contre, ils mettent pas un terme aux ententes qui existaient présentement. Donc, ces ententes-là se poursuivent, puis il y a des négociations là pour l'ensemble de l'œuvre, parce que nous, d'un point de vue du côté du gouvernement, là, ce que Google voulait savoir, c'est combien ça va lui coûter. Et il y avait besoin de prévisibilité et aussi de savoir avec qui il devait négocier, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de médias au Canada, puis tous ces médias-là ont droit d'être assis à la table de discussion, puis Google voulait s'assurer de pas avoir des centaines de négociations en parallèle en même temps. Fait que ce qu'on a décidé, c'est de s'entendre sur un montant au niveau de la valeur monétaire qui va être versée. Puis, c'est un montant qui est connu publiquement, hein, fait que ça fait aussi école à travers le monde. Parce que partout ailleurs dans le monde, les ententes que Google a avec les médias, c'est pas transparent, on sait pas exactement combien qui est versé. Et aussi, ça, c'est vraiment la portion monétaire. Donc, c'est 100 millions de dollars par année qui va être indexé au coût de la vie. Et le reste des négociations qu'il va y avoir, c'est entre autres sur toutes les ententes non monétaires qui peuvent survenir entre Google et les médias, par exemple sur des outils, sur des partenariats au niveau de la publicité, sur toutes sortes de choses que Google a l'habitude d'offrir aux divers médias. Mais ça regarde pas vraiment, on voulait pas inclure ça dans l'entente. Donc ça fait partie des négociations qui ont lieu présentement avec l'ensemble du secteur médiatique au Canada.
Puis à ce moment-là, donc, là, est-ce qu'on peut être plus précis sur la façon dont ça sera négocié? Parce que je me demandais, les petits, justement, on en parlait il y a deux minutes, comment les petits vont faire pour justement se faire porter leur voix auprès de Google? C'est pas, comme tu viens de le dire, Google ne voulait pas faire ça, là, parler à tout le monde de façon indépendante. Comment à ce moment-là, ça va pouvoir se rendre jusqu'au tout petit, cette réalité-là, mais surtout ces sommes-là, si c'est possible?
Ouais, ben il y a une obligation dans la loi que tous les médias qui lèvent la main, qui sont couverts par la loi, donc qui sont reconnus comme étant des médias vraiment d'information, qui ont des journalistes en leur embauche, qui produisent du contenu, etc. Tous ceux qui lèvent la main, il y a une obligation d'être représentés dans le cadre du collectif et donc de recevoir une part de l'entente avec Google. Puis c'est un montant qui est redistribué en fonction du nombre de journalistes. Donc, et c'est le même montant à peu près là, qui va être redistribué par journaliste. Donc, ça, c'est super pour les plus petits médias parce que souvent, les salaires qui sont offerts dans les plus petits médias sont un petit peu moins élevés, mais la compensation qu'ils vont recevoir de Google est la même que les grandes salles de nouvelles par journaliste. Donc ça, c'est très avantageux. Puis c'était vraiment dans cette optique-là qu'on voulait que la loi aussi puisse être favorable aux plus petits médias dans les régions puis partout à travers le Canada.
Est-ce qu'il y a des sommes gouvernementales qui s'ajoutent à ça?
Oui, ben oui, parce que il y a des mesures d'aide là, qui sont en place présentement, comme les crédits d'impôt sur la masse salariale. Ça, c'est du côté des salles de nouvelles, de la presse écrite. Il y a, comme on disait plus tôt, le fonds, l'initiative pour le journalisme local. Et il y a aussi la modernisation qu'on a fait au niveau de la loi de la radiodiffusion. Le CRTC va devoir se pencher dans les prochains mois sur la meilleure façon d'assurer la pérennité des médias au niveau de la radio, de la télévision dans les régions du Canada. Donc, il risque d'avoir d'autres mesures qui arrivent là, au cours des prochains mois pour soutenir les salles de nouvelles aussi du côté de la radiodiffusion.
Je parlais tantôt de Meta, dossier qui semble pas être aussi simple. On en est où avec ce dossier-là? Hein? Je te le disais tantôt, ça va être une entrevue mise au point. Ça aussi, on a un peu perdu le fil. On lit des choses en Australie, on lit des choses ici. Ils ont restreint certains contenus à teneur politique depuis une semaine ou deux. On sait plus trop sur quel pied danser avec Meta. Y a-t-il espoir un jour de revoir, d'avoir une entente et d'avoir une entente favorable entre Meta et les médias canadiens?
Ben franchement, je pense pas que ça va, que ces ententes-là vont survenir de leur plein gré. Ils ont démontré qu'ils n'ont pas d'intérêt à négocier. Puis aussi, je pense que la chose contre quoi Meta lutte présentement, c'est contre la responsabilité de leurs produits.
Hein, c'est ce que je pense
plus largement. Et les impacts de leurs produits, parce qu'ils sont poursuivis à plusieurs endroits dans le monde, notamment sur les impacts que ça a sur les enfants. On a vu, même en Ontario, là, ici, des commissions scolaires qui s'unissent pour les poursuivre. Bref, ils font face à une suite de poursuites partout à travers le monde parce que de plus en plus, on s'aperçoit que les plateformes en ligne, c'est des produits comme les autres, qui doivent être réglementés et encadrés, puis eux, ils s'opposent à ça de façon très vigoureuse. Et, tu sais, par exemple, les jouets pour les enfants, on s'assure qu'il n'y a pas de matière toxique, on s'assure que les indications pour les âges appropriés sont bien indiquées, etc., etc. Puis c'est tout ça que présentement les États cherchent à encadrer au niveau des plateformes. Et Meta est en lutte contre ça. Mais ce qu'on va voir avec la loi sur les nouvelles en ligne, c'est deux choses au cours des prochains mois. Premièrement, il y a des médias qui ont déposé une plainte au bureau de la concurrence, qui a maintenant des nouveaux pouvoirs avec une loi qui a été adoptée là, pour élargir les pouvoirs du bureau de la concurrence au Canada, notamment sur la question des épiciers, mais ça va aussi, je pense, être très utile dans le cas des géants du numérique. Donc ça, on va voir qu'est-ce que le bureau de la concurrence va dire. Puis aux États-Unis aussi, il y a des gros recours au niveau de la compétition, notamment contre Google, à cause que, bon, ils ont des ententes d'exclusivité avec Apple, etc. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu sur lequel ces grosses entreprises-là, globales, mondialisées, il y a beaucoup d'intérêt là, du côté des États, fait qu'au Canada aussi. Et il y a aussi le CRTC sur la mise en œuvre de la loi sur les nouvelles en ligne qui va devoir se pencher. Est-ce que la loi s'applique à Meta même s'ils souhaitent s'y soustraire? Et ça, ils vont devoir trancher là-dessus au cours des prochains mois.
Donc, ils ont choisi, face à la responsabilisation, je vais le dire à la responsabilité, ils ont choisi carrément de se retirer de des grands pans.
Oui. Puis, tu sais, moi, je pense que ce qu'il faut lire là, il y a deux choses. C'est que, premièrement, puis on le voit en Australie, là, ils ont décidé de ne pas renouveler les ententes.
Ouais.
Ils ont enlevé les onglets de nouvelles en Europe, aux États-Unis, puis partout, ils ont restreint beaucoup l'accès à l'information. Ils disaient avant que ça pouvait être entre 6 et 9 par exemple, du contenu qu'on retrouvait sur nos fils d'actualité qui était du contenu d'information. Dans tous les pays aujourd'hui, c'est en bas du 3 %. Donc, ce que ça indique, c'est que c'est une plateforme qui veut pas être considérée comme un éditeur parce qu'il y a des responsabilités civiques qui viennent avec le fait d'être un éditeur. On peut être poursuivi pour le contenu qu'on retrouve. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que ils veulent absolument pas être tenus responsables de ce qu'on trouve sur leur plateforme. Et je pense qu'au niveau du modèle d'affaires aussi, faut pas être non plus naïf. Le fait que Elon Musk a racheté Twitter, qui est devenu X, qu'on a vu un changement profond au niveau du type de contenu qu'on retrouve sur cette plateforme-là, puis de la façon même pour la plateforme là, de pas de légiférer, mais d'encadrer, je dirais, là, le contenu et de modérer les contenus. Ça a complètement changé. Donc, je pense que Facebook réagit à ça aussi. Puis de l'autre côté, par rapport à TikTok, Facebook mise beaucoup plus maintenant sur des courtes vidéos. Donc, il y a des réalités qui concernent plus profondément, je pense, leur avenir en termes de modèle d'affaires puis de pertinence comme plateforme. Mais nous, comme gouvernement, on n'a pas le choix. Hein? Faut protéger l'intérêt public. Et c'est peut-être pas parfait, les lois qu'on a passées, mais je pense que ça démontre que comme État, c'est notre responsabilité, c'est notre rôle d'encadrer puis de rendre responsables les entreprises pour les produits qu'elles offrent dans nos territoires.
On a vu beaucoup de nos médias s'engager très, très profondément dans ces modèles d'affaires-là. Ils ont associé leur propre modèle d'affaires au modèle d'affaires de ces grandes plateformes-là. Puis là, ben, on a l'impression de vivre un recul au point de vue de ce que ça nous apportait comme collectivité pour ce qui est de la vivacité de notre vie démocratique, notre capacité à rester informé. Puis là, tout ce que tu nous présentes comme portrait, je vois pas comment on va pouvoir améliorer ça. Y a-tu des plans, y a-tu des réflexions au point de vue fédéral, au point de vue gouvernemental qui pourraient nous amener à une solution alternative qui ferait que on pourrait s'assurer d'un minimum d'informations qui circulent auprès de la population?
Ben c'est complexe, hein. Puis je pense qu'on voit aussi, tu sais, il y a une volonté de notre gouvernement d'agir dans ce secteur-là. Mais vous avez vu autant que moi les propositions des conservateurs, qui est plutôt de laisser ça au libre marché, de se retirer complètement, de ne plus offrir de soutien aux médias d'information. Les conservateurs vont aussi loin que dire. De diaboliser nos intentions, que le fait qu'on encadre, le fait qu'on donne de l'aide financière, le fait aussi qu'on encadre les géants du numérique, tentent de diaboliser nos intentions en disant que c'est une façon pour nous d'essayer de contrôler les contenus qui vont être favorables au Parti libéral, ce qui est complètement absurde quand on voit ce qui circule, qui est très rarement favorable.
Mais je pense que c'est la prétention aussi par rapport à CBC, tout le moins.
Ben oui, ben c'est ça. T'sais, on instrumentalise beaucoup cette question-là présentement, puis ce qui fait en sorte que c'est aussi complexe parce que nous, on a une obligation comme gouvernement de protéger l'intérêt public, de protéger la démocratie, puis en même temps de protéger la liberté d'expression. Donc, il faut le faire d'une façon à protéger l'indépendance des salles de nouvelles. C'est pour ça que c'est surtout des mesures fiscales qui ont été proposées pour soutenir les salles de nouvelles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de subjectivité là-dedans.
C'est ça. Vous pouvez pas
c'est des crédits d'impôt d'actifs. Mais on fait face à ce courant-là très libertarien et je pense qu'on doit se poser des questions aussi quand il y a des partis qui tiennent ces propos-là parce qu'on le voit aussi que c'est possible de se servir des outils technologiques pour faire de la propagande, pour abolir le rôle journalistique ou en tout cas le minimiser, le mettre en péril. Donc, moi, je trouve ça très, très périlleux. Fait que oui, comme gouvernement, on se pose de grandes questions sur l'avenir des médias, sur qu'est-ce qu'on doit faire, mais je pense que le secteur a aussi un travail à faire en ce sens-là. Les solutions doivent venir du secteur, ça ne peut pas que venir du gouvernement, mais par contre, on reste très à l'affût, puis surtout, je pense que c'est une question qui va se propulser à l'international. Parce que c'est tous les pays démocratiques qui font face à ces enjeux-là. C'est tous les pays démocratiques aussi qui font face à une crise un petit peu au niveau de la démocratie puis de la confiance envers les institutions. Et donc, c'est pas juste le Canada, je pense, qui va réussir à régler tout ça, mais c'est avec une concertation internationale. Et moi, je vois dans l'intelligence artificielle une opportunité. Parce que la menace au niveau de l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus claire pour les citoyens. Parce que là, c'est notre vie privée, c'est notre identité, c'est notre propriété intellectuelle, c'est notre capacité aussi de savoir ce qui est vrai et faux, qui est remis en question. Et je pense que là, c'est beaucoup plus clair pourquoi les gouvernements doivent légiférer et encadrer.
Ben oui.
Fait que je pense que ça va nous permettre de franchir une autre étape.
On l'a vécu là avec les médias sociaux. On a tout un cycle qui nous amène, qui est riche d'apprentissage. On a abandonné, justement, je le disais tantôt, le contrôle des modèles d'affaires. On s'est engagé très confiant avec ces partenaires privés-là. Puis c'est au final, on se rend compte que le mariage n'a pas été si heureux que ça. Donc, il y a des plans aussi pour s'assurer qu'on ne fasse pas deux fois la même erreur, que les erreurs se répètent, hein, sur le temps des cycles, avec cette fois-ci l'intelligence artificielle?
Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense qu'une des solutions pour le secteur aussi, c'est de favoriser la collaboration puis la coopération. Et de mettre en commun certaines ressources et certains efforts. Je pense que l'union va faire la force à long terme. C'est clair aussi pour moi que ce qu'on a vu au Québec, c'est un désinvestissement d'entreprises privées au niveau des médias, de la presse écrite, parce qu'il n'y avait plus d'argent à faire là. Ça devient de plus en plus difficile pour la radio et la télé. Donc, on risque de voir aussi, puis on l'a vu avec Bell, les décisions de Bell, les décisions de TVA, de couper au niveau des journalistes, au niveau des bulletins régionaux. Je pense que là aussi, l'entreprise privée, ça va devenir de plus en plus difficile. Au Québec, on a eu la chance de voir l'émergence de certains modèles d'affaires à but non lucratif, des coopératives de travailleurs, etc. Aussi, je pense des initiatives comme les podcasts, comme les gens qui empruntent les mêmes codes journalistiques, le même professionnalisme, mais qui le font différemment, ben, il va falloir trouver des façons de se renforcer comme secteur, ouais. Je pense. Puis, j'ai l'intention de voir comment CBC Radio-Canada peut être utile là-dedans.
Ben oui, moi aussi, je suis très curieux parce que c'est une de mes c'est une de mes grosses questions. Moi-même étant créateur de contenu indépendant, j'ai toute une réflexion puis je me questionne beaucoup sur la façon dont on pourrait justement souffler sur les braises de la création de contenu indépendante pour que ça pogne tout ça. C'est un peu comme on a vu dans d'autres pays. Il y a des beaux exemples. Par contre, j'ai l'impression que ça va demander de repenser un peu la façon dont puis ça peut aller jusqu'à la nécessité de légiférer, je pense, puis t'es bien placé pour nous l'expliquer. Est-ce qu'il y a des sommes qui pourraient être soit additionnées ou redirigées pour justement supporter la création de contenu numérique indépendante?
Ben, tu sais, encore là, on va voir qu'est-ce qui va émerger, entre autres, de la loi sur la radiodiffusion, de la modernisation de la loi sur la radiodiffusion. On va voir aussi comment tout le secteur va évoluer. Moi, je pense qu'il y a des façons peut-être d'aider. Par exemple, tu sais, puis c'est une des choses sur lesquelles je veux réfléchir dans le cadre de la modernisation du mandat puis de la mission de CBC Radio-Canada. Comment est-ce que notre diffuseur public, au-delà du service public de produire du contenu, de nous divertir, de nous informer, etc., comment est-ce qu'un diffuseur public peut aussi servir de propulseur pour soutenir le secteur de l'information partout au Canada, surtout dans les régions où même Radio-Canada n'est pas là, mais que tu as des plus petits médias, que tu as des médias indépendants qui sont là ou des producteurs indépendants de contenu.
Ouais,
Est-ce que, par exemple, la technologie peut être utile? Comment est-ce qu'il peut y avoir une certaine distribution ou redistribution? Bref, je pense que c'est choses qu'il faut regarder.
C'est pas juste une question d'information dans ce cas-là, c'est aussi c'est une question de culture tout court. C'est que là, on se rend compte que notre culture est moins présente qu'elle pourrait ou qu'elle devrait l'être parce qu'on a des différents défis face justement à la... Puis là, moi, je parle beaucoup de la culture québécoise dans ce contexte-là, francophone, hein, si on reste dans un contexte fédéral. Les défis sont grands parce qu'elle est submergée par la présence des contenus anglophones. Mais puis ça m'amène vers mes questions sur les fameux Netflix de ce monde. Comment le gouvernement peut encourager la production et la diffusion de contenus? Je vais me permettre de faire vraiment là de rester axé sur le volet francophone. Ok, je pense que le défi est grand, malgré que ça doit pas être drôle aussi au côté anglais parce que la compétition est encore plus forte étant donné qu'ils se comprennent. C'est d'ailleurs un des points que les conservateurs mettent de l'avant quand ils parlent de la pertinence de CBC, comme quoi que c'est plus nécessaire parce qu'il y a des contenus privés anglophones qui sont suffisants. Contrairement à la SRC, ça, on pourrait y venir. Puis là, je vois que je viens de te faire. On vient de toucher un point. Tu prendrais la liberté d'ajouter un point là-dessus si tu le désires. Mais ma question est de savoir si on a la capacité de légiférer pour être plus présent sur ces plateformes-là. Parce que quand j'en parlais au point de vue national ici au Québec avec Mathieu Lacombe, la réponse n'était pas très, très, très claire que c'est quelque chose qui est possible. Je ne l'ai pas fait.
Clair que c'est possible, puis on l'a fait. Parce que quand je parle de la modernisation de la loi sur la diffusion continue en ligne, là, C'est justement à ça qu'on touche. On touche à la souveraineté culturelle qui est québécoise, mais aussi canadienne, puis le fait français aussi, parce qu'on l'a mis très haut dans les priorités pour la modernisation de ce cadre législatif-là. C'est le cadre, tu sais, quand je parle de la loi sur la radiodiffusion, là, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est la loi qui a fait en sorte que sur nos radios puis nos télés, on a eu accès à du contenu francophone, à de la musique francophone, à des téléséries francophones. C'est ça aussi qui a permis l'essor de toute la production culturelle indépendante au Québec, qui en a fait quelque chose de vraiment unique, de super fort, puis que la population a, à laquelle la population a fortement adhéré. Et ce qu'on tente de faire en modernisant le cadre, c'est de faire en sorte que on maintient certaines priorités pour ce qui est des plateformes en ligne. Puis quand je parle des priorités, je parle de deux principalement. La première, c'est la capacité pour les gens au Québec et au Canada de découvrir le contenu fait par et pour nous. OK? Et donc, là, il va y avoir des décisions du CRTC qui vont sortir au cours des prochains mois qui devraient porter là-dessus. Donc, de quelle façon est-ce que les Netflix, les Spotify devraient s'assurer que le contenu québécois, francophone est facilement découvrable sur leur plateforme? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de s'assurer d'avoir les moyens de notre production. Parce que autrefois, on produisait notre contenu indépendant, surtout avec, oui, bien sûr, des crédits d'impôt, avec l'argent de téléfilm, avec l'argent de la SODEC au Québec, etc. Et aussi avec une redistribution de la câblo-distribution. Fait que quand on est abonné au câble, il y a un montant d'argent qui s'en va dans un fonds qui sert à produire du contenu québécois, canadien. Ça s'effrite quand les gens se désabonnent du câble. Et donc, il faut trouver une autre façon de financer.
Est-ce que les plateformes sont prêtes à des ententes semblables?
Ben, ils vont s'opposer, sauf que c'est notre job à nous autres à dire, ouais, vous faites de l'argent ici. Maintenant, vous devez mettre en valeur le contenu ici. Ça veut pas dire qu'on va forcer des gens à n'écouter que du contenu francophone, mais ça veut dire, par contre, que si vous avez le goût d'en voir, ça va être plus facile de le trouver. Puis de l'autre côté, ben oui, il va falloir que vous participiez au succès de nos entreprises d'ici. Et de quelle façon ça va prendre, c'est à ça que le CRTC va répondre au cours des prochains mois. Est-ce que ça va être une redevance qui va être versée dans le Fonds canadien des médias? Je ne sais pas. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des obligations pour eux de produire un certain, de dépenser en contenu fait ici par et pour nous. Donc, il y a diverses façons, puis ça peut être adapté au modèle d'affaires, mais c'est les deux aspects primordiaux pour la survie de notre souveraineté culturelle au Québec et au Canada. Ouais. Puis tantôt, j'ai tiqué pour une raison bien particulière, parce que moi, je trouve ça bien inquiétant quand on a des conservateurs du côté anglophone qui nous disent « on n'a plus besoin de produire du contenu canadien parce qu'on en a en masse qui est super bon, qui vient des États-Unis. » OK. Mais le point de vue canadien, là, puis ce qui fait qu'on est canadien, qu'on n'est pas américain, c'est beaucoup par la culture, c'est beaucoup par nos propres contenus, mais c'est aussi par l'information.
Mais il y a du contenu privé canadien.
Il y a du contenu privé canadien, sauf que, tu sais, au niveau de, par exemple, de CBC, CBC va nous raconter ce qui se passe au Canada. Je ne pense pas que CNN, Fox ou autre vont nous dire ce qui se passe au Canada. La deuxième chose, c'est que CBC Radio-Canada va nous dire ce qui se passe aux États-Unis, mais avec la lunette canadienne, ce qui se passe présentement en Afrique, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Moyen-Orient, avec la lunette canadienne. Et ça, il y a personne d'autre que des Canadiens qui va pouvoir le faire. Donc, je m'oppose fortement à cette prémisse-là, comme quoi maintenant, il y a une abondance de contenu, et donc le contenu canadien. Je trouve qu'il ne faut pas être fier de notre pays, tu sais, pour dire des choses comme ça. Je trouve ça vraiment horrible. Fait que, et moi, je m'inquiète autant de la souveraineté culturelle québécoise que de la souveraineté culturelle canadienne.
On va en parler, mais avant ça, j'avais envie de voir, parce que tu évoques là très bien tous les défis auxquels on fait face, mais on n'est pas les seuls. Je pense qu'en ce moment, face aux grandes plateformes, j'allais dire étrangères, mais c'est des plateformes internationales qui sont basées à des endroits précis, plus souvent qu'autrement aux États-Unis, tous les pays ont ce défi-là. C'est quoi en ce moment les partenariats, la collaboration internationale du Canada pour justement se présenter en bloc face à ces défis-là, devant ces défis-là?
Bien, pour revenir d'abord à la première, je pense que pour bien comprendre l'enjeu, tu sais, quand on a signé des accords de libre-échange avec tous les pays, c'était pour enlever les barrières au commerce. C'était pour que nos entreprises canadiennes puissent avoir accès à des marchés étrangers et vice-versa. Là, on se retrouve dans la situation inverse, où on a des entreprises qui sont au-dessus, en quelque part, des gouvernements qui font affaire dans tous les pays. Et là, ce que les pays veulent faire, c'est mettre des cadres et des lois pour que ça serve l'intérêt public aussi, puis pour que ça serve aussi les intérêts économiques de nos pays. Fait qu'on est comme dans la situation inverse. Fait que je dirais que la coopération internationale a été un petit peu plus lente. Et c'est pour ça tantôt que je parlais de l'opportunité de l'intelligence artificielle. Parce okay. que c'est un péril qui guette tout le monde.
Okay.
Et ça, c'est peu importe qu'on soit un pays démocratique ou pas.
Mais là, t'as utilisé le mot péril. Tu sais, c'est quand même lourd.
Ben, c'est un péril, c'est une opportunité, mais c'est un péril.
Ouais,
je pense que tout le monde le voit. Le
c'est le problème et la solution.
Ben, c'est ça, tu sais. Et donc, je pense qu'on arrive dans une nouvelle ère de coopération internationale. Donc, on se retrouve au niveau international dans une situation inverse de ce qu'on a connu dans les dernières décennies où les oui. pays signaient entre eux des accords de libre-échange pour ouvrir les marchés pour nos entreprises. Et là, on se retrouve dans une situation où les entreprises ont accès à tous les marchés et les pays veulent maintenant légiférer pour que ces entreprises-là soient bénéfiques d'un point de vue de l'intérêt public dans leurs frontières et aussi d'un point de vue économique. Et donc, je pense que ça nécessite une nouvelle façon de travailler entre les pays et des nouveaux paradigmes. Et je dois dire que jusqu'à présent, il n'y a pas eu tant de succès dans le sens où on n'est pas encore parvenu à une entente sur un impôt minimal à imposer aux plateformes numériques dans tous les pays. T'sais, on parle de 3 % normalement, le Canada, on va aller de l'avant. Il y a certains pays qui sont allés de l'avant, mais c'est pas tous les pays qui sont allés de l'avant de la même façon ou au même moment. Fait qu'on a cet enjeu-là. Mais je pense, par contre, là, que un, avec l'intelligence artificielle et deux, avec tous les enjeux que tous les pays vivent présentement par rapport à la désinformation, par rapport à la propagande, puis par rapport à des intérêts étrangers qui favorisent cette désinformation-là pour déstabiliser les démocraties, il y a une volonté renouvelée des États de travailler ensemble. Et j'ai eu l'occasion récemment de parler avec l'Australie parce que l'Australie fait face au même remède que le Canada fait face par rapport à Meta. Et donc, oui, il y a un intérêt qui est renouvelé, je pense, de se parler. Et certainement, moi, quand je vais avoir mes rencontres avec vis-à-vis des pays du G7, c'est un point que je vais soulever dans nos prochaines rencontres des ministres de la culture du G7 en Italie, puis en 2025 au Canada. Il va falloir qu'on travaille ensemble de façon beaucoup plus concertée.
On parle de collaboration internationale, mais il y a aussi la collaboration ici avec le Québec. Ça n'a pas toujours l'air simple. T'sais, on a l'impression des fois que les décisions sont apprises, sont apprises où on voit, on est mis face au fait accompli directement dans les médias. C'est ce que nous disait le ministre de la Culture et des Communications du Québec. Des fois, il aimerait que la communication soit peut-être un petit peu plus bilatérale. Comment ça va? Est-ce que c'est possible de développer une pratique du fédéralisme qui respecte la souveraineté culturelle du Québec?
Ben oui, je pense que tu sais les conversations sont toujours ouvertes.
Mais on parle de discussion proactive là, tu sais que l'information se rende avant qu'elle soit annoncée.
Oui, ben écoutez, tu sais moi premièrement je suis québécoise. Hein? Puis quand j'interviens dans des dossiers, je le fais avec une lunette qui est québécoise, puis avec la lunette aussi de la protection de la souveraineté culturelle québécoise. Donc mais les relations avec le Québec pour moi c'est super important. Et on doit le faire chacun dans nos champs de compétences. Donc, quand on parle de loi, évidemment, il faut qu'on présente les lois dans la façon habituelle au niveau du Parlement canadien. Mais le Québec est toujours invité à intervenir sur les lois ou à intervenir au CRTC quand il y a des modifications des cadres réglementaires. Et le Québec le fait de façon régulière. Ce qui est encore plus important, c'est que ces audiences-là sont ouvertes aussi aux intervenants de la culture. Donc, pas juste au gouvernement, mais aux gens.
Allez-y! Hein, on encourage tous les créateurs, là. C'est quand ça va être le moment de se faire entendre, allez-y!
Ben c'est ça, exactement. Il y a des audiences exactement pour ça. C'est pour ça que je suis toujours ambivalente quand on me dit ça, parce que je veux dire, les processus législatifs ou les processus réglementaires sont ouverts et les gens ont le temps de se faire entendre et d'exprimer leurs préoccupations. Donc, mais je suis toujours ouverte à trouver des nouveaux mécanismes, puis je comprends la préoccupation du Québec, je la vis aussi.
C'est que, tu sais, je pense que c'est une réalité où on cherche un partenariat nation à nation, pas une possibilité d'aller s'asseoir avec les autres qui sont, tu sais, la chaise est là, viens t'asseoir. Tu sais, c'est plus, je pense que c'est plus dans un contexte de collaboration, là, nation à nation. Hey, merci beaucoup, Pascal.
Mais on se parle régulièrement, hein, Mathieu.
Oui, je laisse l'impression, là, que c'est... Que c'est pire que c'est, là, mais je lis entre les lignes des fois quand j'entends les propos, puis j'ai cette chance-là, moi, de parler à des ministres, ouais, à des députés, puis tout ça, fait que c'est intéressant, ça me permet des fois de faire des ponts comme ça d'une entrevue à l'autre. On tient tout le temps qu'on avait, Pascal, je te remercie, ça serait tellement le fun, là, qu'à un moment donné que tu passes à Québec, qu'on le fasse en studio. Là, on a eu plein de problèmes techniques en plus, ça apparaîtra pas, là, chers auditeurs, vous allez vous demander pourquoi soudainement mon décor a changé, tout ça. Ça a été un cauchemar pour moi, ça, alors que j'avais une super belle opportunité avec Pascal Saint-Onge. Si tu passes à Québec, à un moment donné, viens nous voir en studio, ça serait super apprécié. J'aimerais parler du CRTC, parce que le mot modernisation, moi, m'intéresse particulièrement dans ce contexte-là.
Mm-hmm. Ouais.
Donc, merci, tout simplement.
Ben, ça va me faire plaisir, puis c'est... La prochaine fois que je viens à Québec, je te promets, je passe dans tout ça.
Yes! Fait comme ça, on va dire ça à Ariane qui est là, qui nous regarde, puis qui a hâte qu'on termine parce que le temps file. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents. Des capsules comme celle-là, des entrevues comme celle-là, vous le savez, on en a une panoplie. On en a sur nos plateformes YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, mais on en a aussi sur nos plateformes québécoises. C'est aussi disponible. C'est distribué sur Cube Radio et aussi télédiffusé le week-end, le samedi à 8h et le dimanche à 15h sur justement l'antenne de Cube Télé. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro. Encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.